When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, expertes, puissantes, courageuses, peu importe, nous, telles que nous sommes. Nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux générations, deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidées par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneur et présidente de plusieurs réseaux féminins dont Bouge ta boîte, réseau business qui bouge les lignes un peu partout en France. Aujourd'hui, je reçois une mère et sa fille qui font partie des trop rares fleurons féminins de l'industrie française. Deux femmes à la tête de Thuan, leader européen du dispositif médical orthopédique, donc tout le matériel qui prend soin de nous quand on ne va pas très bien, les ceintures lombaires, les genouillères, etc. C'est Thuan. Thuan, c'est aussi 2300 collaborateurs, 240 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15 filiales dans le monde. Bonjour, Elisabeth Ducoté.
Bonjour.
Alors, vous êtes présidente depuis 30 ans de Thuan. Bonjour Delphine Anton.
Bonjour.
Et vous êtes directrice générale de ce même groupe. Et ensemble, on va vous donner envie de venir travailler dans l'industrie. On va commencer avec vous, Elisabeth. Alors, vous avez un parcours incroyable parce que vous avez commencé votre carrière comme psychologue et orthophoniste et vous êtes aujourd'hui l'une des figures de l'industrie. Vous avez accepté de partager avec nous deux moments clés. Deux jours où vous avez fait des choix décisifs qui ont transformé votre vie. Le premier jour où, qui a changé votre vie, c'est quand l'entreprise familiale commence à vous intéresser.
Oui, tout à fait. Et dans le fond, quand on se remémore un petit peu comment les choses se sont passées, moi je me souviens d'un moment clé qui était le moment où notre père, qui était le dirigeant de la société, nous a invités, et je dis nous parce que c'était mes frères et sœurs avec moi, à devenir administrateur. Et c'était tôt dans notre vie parce que moi-même, je crois que j'avais 20 ans ou 21, enfin j'étais étudiante. Et donc on venait dans ce conseil d'administration, où il y avait des participants beaucoup plus âgés que nous, et on recevait tout d'un coup cette immense culture de l'entreprise, de ce qui se passe, des comptes dans lesquels il fallait qu'on se retrouve, de la perspective, de la stratégie, de la compréhension, et on était doté de quelque chose qui pour moi est important, d'un mandat. C'est-à-dire qu'on n'était pas là en spectateur, on était là en mandataire, c'est-à-dire qu'on avait une obligation vis-à-vis de ce qui nous était donné. Et ce mandat, en plus, c'était un mandat social. Donc, vous voyez, les deux mis bout à bout, ça fait quand même un très grand appel, une espèce d'aspiration, et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était intéressant.
Voilà. Une grande responsabilité qui, tout d'un coup, vous incombe, parce que vous connaissiez bien l'entreprise, votre père l'a dirigée, des générations auparavant aussi. Mais tout d'un coup, il y a une responsabilité qui est là sur vos épaules.
Oui, je dirais, l'entreprise, on la pratiquait. Vous savez, comme toutes ces entreprises qui sont dans les territoires où on habitait à côté, où on vivait avec l'entreprise, où le samedi et le dimanche, on allait regarder s'il y avait une machine nouvelle qui s'était mise en place, et où on était passionné par, je dirais, cette évolution d'une entreprise qui se transformait en même temps que la technologie. Et c'est vrai que, à la fois, nous devenions adultes et nous avions un vrai rapport de responsabilité à l'entreprise. Et je me suis aperçue que c'était intéressant.
C'était intéressant, ça veut dire qu'est-ce qui vous a plu à ce moment-là, lors de ce premier conseil ?
Ce qui m'a beaucoup plu, je pense, c'est la perspective de transformation des technologies. On passait de métiers qui étaient des métiers à motion mécanique à des métiers à motion électronique. Ça changeait tout, ça changeait la productivité, ça changeait la nature du collaborateur qui pouvait s'occuper de ce métier, ça changeait l'emplacement dans lequel on le mettait, ça voulait dire aussi qu'on avait à mettre de côté des moyens pour s'offrir ces technologies nouvelles. Donc c'était passionnant, et c'était passionnant parce que mon père, qui était lui-même ingénieur, était passionné.
C'était passionnant, et pourtant à des années-lumière de vos études de psychologue, d'orthophoniste ?
Pas à des années-lumière. Vous savez, dans la vie, les choses se tiennent, et elles se tiennent de façon quelquefois discrète et non visible.
C'est-à-dire lesquelles ?
Je vais vous parler en termes un peu de psychologue, mais de rapport au monde. Finalement, le rapport au monde, le rapport au concret, le rapport à ce qui est nourrissant. Eh bien, quand on est en rapport au monde avec des individus avec lesquels on est en cours de travail, ou rapport à un groupe d'hommes qui et de femmes dans une entreprise qui ouvre des perspectives, ben, je pense que tout ça se ressemble beaucoup. Et dans ma vie professionnelle, tout ce que j'ai fait avant d'entrer dans l'entreprise n'a pas été du tout étranger à ce que j'ai fait après mon entrée dans l'entreprise.
Au contraire, ça vous
a aidé ? Au contraire. Voilà, il y a une grande unité qui n'est pas forcément visible de l'extérieur, mais qui est absolument réelle.
Deuxième moment clé, c'est malheureusement là un événement dramatique.
Oui, c'est un événement très dramatique et puis qui est un événement, je dirais, à la fois banal et très important. C'est-à-dire un soir où mon père a eu un AVC. Mon père qui était dirigeant, président, directeur général. Moi, j'étais déjà à ses côtés en directeur général, mais avec une tendance très commerciale. Et mon père a eu un AVC dans la nuit et donc il a été immédiatement pris en charge et dans une situation totalement critique dont il a survécu, mais étant totalement dans l'impossibilité d'assumer ses fonctions. Et c'était un 18 juin en 91. Et donc, le lendemain matin, le 19 juin, il fallait assumer la responsabilité de l'entreprise. Et donc, moi-même, j'y étais. Et à ce moment-là, si vous voulez, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a autour de soi des collaborateurs qui ne se posent pas la question de savoir est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. On veut vraiment savoir est-ce que ça va continuer. Quand on arrive et qu'on dit « moi j'y suis, dans mes perfections et mes imperfections », parce qu'on a les deux, eh bien j'y suis avec mes perfections et mes imperfections, à ce moment-là, on reçoit l'aide. Et une fois qu'on a une aide qui vous est donnée, les choses sont sauvées.
Vous y avez été préparée ?
Oui, bien sûr. D'abord, j'ai été dans l'accompagnement à côté de mon père, qui était un grand pédagogue, qui était un esprit très ouvert, qui avait d'ailleurs pris l'audace de se dire que c'est une fille qui lui succéderait. À ce moment-là, ce n'était pas très à la mode.
C'était la première fois dans votre entreprise.
C'était la première fois dans l'entreprise et c'était probablement pas très bien partagé par ses propres amis à lui, qui trouvaient que c'était un peu risqué. Et donc, c'est vrai que cette confiance que m'a accordée mon père, elle a été fondatrice pour moi. Elle a été absolument la brique qui m'a permis d'accéder. Mais c'est vrai que c'était une période très particulière et dans laquelle, je dirais, l'obligation, la nécessité, c'est de l'ordre de la nécessité, fait que les choses se passent. Voilà.
Et vous vous êtes sentie directement légitime ?
On se sent légitime. Vous avez raison de poser la question de la légitimité, parce qu'elle est extrêmement importante. La légitimité, elle doit nous être donnée. Et j'ai reçu la légitimité de mon père, d'abord qui s'est absenté, je dirais, pour des raisons de santé, mais quelques mois après, qui m'a nommée présidente. Et cette légitimité, elle était obligatoire, et je suis très très heureuse qu'elle m'ait été donnée, parce qu'elle est absolument obligatoire. Il faut être légitime dans un poste.
Merci Elisabeth. Delphine, vous êtes à la fois la fille d'Elisabeth Ducoté et la directrice générale de Tuan. Quel est le moment clé qui a changé le cours de votre vie ? Est-ce que vous reconnaissez un peu dans les propos de votre mère ?
Alors totalement, puisque un des moments clés correspond très exactement à celui qui a été décrit il y a quelques minutes, dans l'idée qu'un moment clé, en tout cas un moment de conscience de l'entreprise, a été lors de ma nomination en tant qu'administrateur.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 30 ans. Et donc, on était sur un moment où j'étais moi-même sur un parcours professionnel qui n'était pas dans l'entreprise et qui m'a, je dirais, ouvert cette conscience du groupe. Et dont cette conscience, quand on n'est pas administrateur, on est sur quelque chose de familial et qui est forcément partiel. Ce qui permet, du coup, en tant qu'administrateur, de comprendre sa richesse, sa complexité et du coup, de faire monter ce désir, cette envie qui est celui qui m'anime aujourd'hui.
Vous faisiez quoi à ce moment-là ? Alors, vous rappelez de ce moment où vous avez été nommée ?
Oui, tout à fait. J'étais auditrice dans un des Big Four.
Et donc, un Big Four
PricewaterhouseCoopers. Et donc, du coup, cette possibilité d'accéder à cette conscience de l'entreprise. Alors, j'avais l'occasion de voir des entreprises justement à travers l'audit. Mais là aussi, j'ai pu réaliser à quel point, à travers ce travail d'audit, ce groupe était très particulier. Au-delà de l'entreprise familiale, c'était un groupe très particulier avec une richesse que j'imaginais pas, en fait.
Donc, vous aviez l'habitude d'avoir un regard extérieur sur les entreprises. Et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez au cœur de l'entreprise,
voilà,
c'est ça ?
Exactement.
Et vous avez ressenti quoi ?
Eh bien, une fierté déjà d'être mandataire social administrateur, d'avoir ce rôle à jouer, puisqu'il y a un rôle, une responsabilité.
Mais vous vous y attendiez ?
Non, je pense qu'il n'y a pas de chemin inscrit. On est sur quelque chose qui n'a rien d'obligatoire et qui n'est jamais inscrit. C'est l'environnement dans lequel on a grandi et j'en remercie d'ailleurs de cet environnement et de cette éducation qui était de dire le point de départ, le socle, c'est la liberté. La liberté d'être ou de ne pas être. Et je pense que sans ce socle-là, on arrive à des situations qui ne fonctionnent pas. Donc cette liberté d'être ou de ne pas être, c'est ce qui nous a permis à chacun, et mes frères et sœurs aussi j'imagine, de faire des choix de présence ou de non-présence.
et vous avez tous choisi d'être présents dans l'entreprise. Voilà. Vous auriez pu imaginer faire un autre métier ou monter une autre entreprise dans un autre domaine. C'est quelque chose auquel vous avez pensé?
Bien sûr, et pour être honnête, en fait, en étant plus jeune, j'avais coutume de dire que jamais je ne rentrerais dans le groupe. Donc c'est dire à quel point les choses changent à partir du moment où on apprend et on comprend. Et cette conscience du groupe m'a du coup donné l'opportunité de changer d'avis, ce qui est pour moi une bonne chose. Donc oui, c'était pas du tout inscrit de pouvoir continuer sur cette voie-là.
Et quand Delphine disait ça, petite, vous en pensiez quoi, vous, Elisabeth ?
Ben moi, je pense qu'il ne faut pas être prédestiné dans une affaire comme celle-là. Il faut faire très attention à maintenir le choix, la liberté, la capacité d'entrer ou de ressortir ou de ne pas entrer. Mais je veux dire, ce n'est pas un métier qu'on peut faire par devoir et simplement par obligation. Et donc, il faut vraiment y trouver quelque chose qui, pour moi, est important, c'est du plaisir. Tant qu'il n'y a pas de plaisir, on ne travaille pas très bien. Donc voilà, il faut aller chercher le plaisir. Quand le plaisir est là, c'est gagné.
Et vous avez réussi à transmettre ce plaisir à tous vos enfants. Et vous, petite, vous imaginiez faire quoi ?
Alors moi, je vais vous dire, j'avais vraiment très envie d'être chef d'orchestre. Et je m'étais vraiment exercée à l'être à 5 ans, 6 ans. Je faisais déjà des exercices avec une baguette. Bon.
Alors, il y a très peu de femmes chefs d'orchestre. Hein. Je crois qu'on est à 3%, donc ça aurait été pas mal aussi.
Donc l'industrie était peut-être mieux, justement, parce que c'est peut-être pas beaucoup. Ceci dit, c'est vrai que j'avais très envie d'avoir un ensemble d'éléments à diriger et à co-diriger. Voilà. Un jour, mon grand-père, me voyant, m'a dit, toi, tu commanderas. J'avais 5 ans. Alors, est-ce que ça a été un élément décisif, je ne sais pas, mais je crois que oui, je crois que ça aussi, vous voyez, ça participe de la légitimité qui s'inscrit dans une espèce de succession d'actes qui paraissent mineurs les uns et les autres, puis qui, mis bout à bout, crée une véritable ligne conductrice.
Souvent, nous les femmes, nous manquons cruellement de rôles modèles, d'exemples qui nous ressemblent et auxquels s'identifier et se dire « mais oui, c'est possible, je peux emprunter ce chemin-là, c'est pour moi, moi aussi je suis capable ». Et notamment dans le domaine économique, il y a très peu de femmes qui sont mises en avant et qui sont à la tête d'entreprise. En 2018, par exemple, dans les personnalités les plus médiatisées en France, on a eu 1% de femmes dans la catégorie patron, 1% de patronnes. J'imagine que dans les capitaines d'industrie, c'est encore pire. Comment on fait, Elisabeth, quand on a peu de rôle modèle autour de soi? Est-ce que vous en aviez, vous, au démarrage, quand vous êtes devenue présidente de Tuan?
Alors, je ne peux pas dire que j'ai eu de modèle vraiment féminin dans l'industrie, mais c'est vrai que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup observé ce que faisait Françoise Giroux. J'ai beaucoup aimé tout ce travail où elle a été, elle, co-dirigeante d'un grand média et où elle a fait franchir aux femmes des étapes. Et ensuite, elle est devenue ministre. Giscard d'Estaing lui a dit « Vous accepterez d'être mal aimée ». Et j'ai trouvé que c'était très juste, c'est-à-dire qu'effectivement, elle ne ferait pas l'unanimité tout de suite. Sauf qu'elle a franchi elle-même des étapes qui nous en ont fait franchir à nous, qui étions un petit peu derrière à elle, leur génération. Elle nous a fait franchir d'énormes étapes.
Et vous étiez, j'imagine, très souvent la seule femme dans ce milieu de l'industrie.
Oui.
Comment on dépasse ça?
C'est vrai. Alors, je veux dire, ça ne m'a jamais gênée. Je n'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait une espèce de problème du genre. Je me suis trouvée partout, je dirais, dans la vie associative, dans la vie, dans les formations que j'ai faites, dans les amis que j'avais. Je me suis souvent trouvée, effectivement, dans une situation où il y avait peu de femmes, voire pas de femmes. Ça ne m'a jamais, jamais gênée. Ça ne m'a jamais gênée quand je suis allée beaucoup à l'étranger, au moment où j'ai commencé, je dirais, l'internationalisation du groupe. C'est-à-dire, je me suis trouvée en Asie, je me suis trouvée en Chine, au Japon, je me suis trouvée en Europe de l'Est à être la seule femme. Très souvent, j'ai eu aussi très souvent, je dirais, au début, des situations assez cocasses qui m'amusaient parce que je partais avec un de mes collaborateurs et puis on pensait que j'étais la secrétaire. Et donc, la rectification, lorsque l'interlocuteur voyait la différence, c'était drôle et moi, ça m'amusait énormément de profiter un peu de cette confusion.
Vous étiez en position de force, après.
J'étais en position de force et ça, c'était plutôt amusant. Mais j'ai jamais eu le sentiment, si vous voulez, que cette minorité du genre me gênait parce que j'étais un des dirigeants qui était là ou un des élèves lorsque j'ai fait cette formation Chambre de commerce qui est Executive MBA. Voilà, on était en parité et j'ai toujours vécu cette parité comme non distinctive.
Delphine, vous, à l'inverse, vous avez devant vous un rôle modèle hyper puissant, hyper présent, qui est votre maman. Comment on gère cela ?
Ben alors, je pense que j'ai été mal éduquée, parce qu'effectivement, J'ai été éduquée dans un environnement où le rôle de la femme, enfin en tout cas la place qu'elle occupe, est une place qui est totalement naturelle. Et donc j'ai tendance à me dire que effectivement ce naturel-là, j'ai pas de raison de le modifier ou de le corriger. Et donc j'ai eu tendance à pratiquer de la même façon parce que j'avais justement un modèle juste à côté qui était totalement à l'aise et totalement, je dirais, naturel par rapport à cet enjeu-là, que je considère donc pas un enjeu en soi, puisque il y a quelque chose de totalement fluide et totalement naturel dans la façon d'être vis-à-vis des hommes. Et donc, pour moi, c'est un débat qui devrait ne pas exister quelque part, même si j'ai bien conscience que quelque part, il reste un combat, il reste un moment,
une réalité
et sur lequel on doit continuer à faire en sorte que ce soit naturel. Voilà.
Et comment on fait quand on a une mère présidente? Comment on fait pour se sentir à la hauteur? Est-ce qu'on doit se dire, est-ce que je dois être exemplaire? Est-ce qu'il faut toujours que j'avance? Ou on peut avoir de la légèreté malgré tout?
Je pense que c'est un apprentissage de lâcher prise, qui n'est pas forcément le plus facile, mais que je pratique au mieux.
Vous avez des exemples où vous avez lâché prise?
Comme je le disais, c'est pas forcément dans ma nature, parce que je suis plutôt une teigneuse et une travailleuse. Mais j'y travaille régulièrement. Je pense que à tous les niveaux, que ce soit au niveau familial et au niveau professionnel, de se dire que, de replacer les enjeux là où ils sont, et c'est de se dire, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je peux me permettre de ne pas être aussi attentive? C'est tout le travail du quotidien, parce que si on n'a pas ce travail au quotidien, on se laisse déborder, donc je pense que c'est un travail permanent de lâcher prise, de s'obliger au lâcher prise en fait.
En quoi vous vous reconnaissez mutuellement l'une dans l'autre ?
Ben moi, je peux dire que, si vous voulez, cette filiation, parce que c'est dans une entreprise familiale, il faut qu'il y ait une filiation. Moi, j'avoue, je suis très heureuse maintenant que je vais progressivement, je dirais, prendre de la distance par rapport au pouvoir opérationnel. Je suis très heureuse que la balle ait été prise, quoi, qu'il y ait un rebond de l'autre côté et que dans le court de tennis, mon père me disait, ne monte jamais au filet, reste en fond de court. Et là, j'ai envoyé une balle qui est reprise. Et donc, ça marche. Donc, c'est vrai que je suis très fondamentalement heureuse parce que, dans le fond, dans une entreprise, il y a aussi des cas où la balle n'est pas reprise. Et donc, ça, c'est dramatique.
Delphine ?
Je dirais la reconnaissance ou la filiation, elle passe à travers les valeurs, qui sont les valeurs de la famille et de l'entreprise, et sur lesquelles je me reconnais, en fait. Et je pense qu'on est dans un environnement qui porte ces valeurs, sur lequel moi, je me reconnais personnellement et que je continuerai à pousser. C'est une des raisons pour lesquelles je continue le chemin, en fait. C'est de se dire qu'il y a ces valeurs qui vont être pérennes dans le temps.
C'est une responsabilité pour vous ?
Oui, il y a forcément une part de responsabilité. Si on ne rentre pas dans l'idée d'une responsabilité, ça veut dire qu'on ne prend pas et on n'accepte pas ce poste. Mais comme vous le disiez très justement, il faut savoir avoir cet équilibre de responsabilité, mais en même temps, ce lâcher prise qui permet de continuer à avancer.
Est-ce que quand on est à cette place, à la tête d'une industrie, ce qui est le cas de vous deux, est-ce qu'on se dit « j'ai un rôle à jouer, je peux, par mes prises de parole, par ma présence, contribuer à bouger les lignes pour attirer plus de femmes dans l'industrie ?» On sait que les femmes aujourd'hui représentent moins de 30% des salariés dans ce secteur, surtout présentes dans des fonctions support, elles sont souvent exclues de la fabrication, elles représentent moins de 20% des comités exécutifs, et pourtant il y a 50 000 postes à pourvoir dans l'industrie aujourd'hui, on ne peut plus passer de la moitié de nos talents, comment faire pour les attirer dans l'industrie? Que leur dire?
Moi, j'ai envie de dire qu'il y a probablement un lieu clé, un moment clé dans le parcours éducatif des jeunes. C'est le moment où, en fin de terminale, les jeunes choisissent d'aller soit du côté école de commerce, soit du côté école d'ingénieur. Et où là, je crois qu'on n'a pas éclairé suffisamment les jeunes filles, les jeunes femmes, sur l'intérêt fondamental et les chances fondamentales qu'elles ont dans l'industrie. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas su faire notre boulot, nous les industriels, d'aller les convaincre, d'aller le leur dire. Et je pense que c'est pas les professeurs qui peuvent le leur dire, parce que les professeurs n'en ont pas l'expérience personnelle. Voilà, il y a un chaînon qui me paraît manquer à ce moment-là, et ça veut dire qu'il faut qu'on soit, nous, plus convaincantes d'aller leur dire, oui, c'est intéressant, c'est même passionnant, et vous y aurez toute votre place, et vous y aurez une place qui est, je dirais, très dans la nature féminine, qui est l'organisation, l'ordre, la gestion des flux, la gestion de tout cet ensemble qui marche comme une mécanique qui est de plus en plus complexe. Et ça, je pense que toutes les femmes qui aiment cette gestion des flux, de ces rivières multiples qui se croisent, ces s'entrecroisent pour aller jusqu'à chez le client. C'est passionnant. Plus la technique qui est passionnante aussi. Et je crois qu'on ne leur dit pas au bon moment. Voilà. Et au moment où on s'en aperçoit, c'est un peu tard. C'est-à-dire qu'elles ont déjà pris d'autres voies.
D'autres voies universitaires ou dans des grandes écoles. C'est-à-dire qu'il y a peu de femmes dans les filières scientifiques d'ingénierie. Mais aussi parce qu'on a peu d'exemples de femmes dans l'industrie qui sont visibles. Et du coup, se dire, bah oui, finalement, il y a un chemin qui est déjà déjà tracé, je peux l'emprunter. Et c'est génial parce que je les ai entendus témoigner que, effectivement, l'industrie, ça peut me correspondre.
Alors oui, et moi, je pense que ce témoignage, il doit être situé, non pas uniquement à notre niveau, mais il doit être constitué autour de toutes les personnes qui sont à tous les niveaux de l'entreprise. C'est un sujet sur lequel nous, on insiste chez Tuan, de se dire que le témoignage, il se constitue à tous les niveaux. On incite fortement de participer à des forums, être en présence sur ces forums d'école et de pouvoir justement partager une expérience qui, là aussi, est très naturelle.
Il y a le ministère de l'économie justement qui a lancé ce programme industriel pour mettre en avant 1000 femmes dans l'industrie, qui a lancé un guide des bonnes pratiques pour attirer plus de femmes dans l'industrie. C'est un enjeu pour vous ?
Ah oui, pour moi c'est indispensable parce que si vous voulez, il y a 50% de femmes dans la population mondiale. S'il n'y a pas 50%, 52% de femmes dans l'industrie, eh bien, l'industrie manque de quelque chose. Voilà. Donc c'est, pour moi c'est très clair.
Vous pouvez d'autant plus mieux en parler que vous avez considérablement transformé Tuan depuis votre arrivée. Il y a 30 ans, vous l'avez digitalisé, internationalisé, amélioré le design. De quoi vous êtes la plus fière ?
Moi, je dirais, ma tâche, lorsque j'ai repris l'entreprise, c'est vrai qu'on avait bien établi, enfin, mon père avait très bien architecturé. Mon père était un ingénieur polytechnicien, très architecte. Il avait architecturé l'entreprise. Moi-même, j'ai fait le transfert à l'international très tôt, très vite, parce que c'était une obligation. On était un leader sur le marché français. Si on n'était pas sorti des frontières, on n'aurait pas progressé. Donc, moi-même, c'est plutôt l'international que j'ai fait, avec effectivement des composantes qui étaient de cette époque-là où il fallait qu'on design les produits et qu'on n'en fasse plus un produit douloureux, affreux et difficile à porter, mais qu'on en fasse quelque chose au contraire d'attrayant. Mais c'est vrai que c'est l'international qui a été très tôt au moment où je suis arrivée, avec en particulier l'acquisition de la première société allemande que j'ai faite quelques mois après avoir été nommée présidente.
Et vous, Delphine, c'est la digitalisation notamment ?
Alors oui, moi c'est un sujet qui m'est très cher parce que je suis convaincue que c'est un des éléments qui contribue, je dirais, à la pérennité du groupe qui est nécessaire en transformation. Après, il y a un élément qui me tient vraiment à cœur aussi, c'est le résultat collectif, qui est un exemple de succès que je souhaiterais nommer aujourd'hui, qui correspond à un audit avec un enjeu fort chez nous, puisque c'est un audit qualité, et Dieu sait si la qualité est majeure. On est très fiers de nos produits, et on est totalement dans l'idée que le produit doit être, alors parfait, non, la perfection n'existe pas et ça n'a pas lieu, mais de se dire qu'on est sur une excellence de qualité. Et donc l'enjeu de cet audit de qualité était particulièrement important et je suis très fière et j'ai senti cette fierté de réussite collective de pouvoir passer ce cap de l'audit de qualité et c'est un élément qui pour moi a été très important. Voilà.
Qui était fondateur.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez déjà envisagé la transmission de l'entreprise ? Qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce qu'il y a une date qui est arrêtée ? Ou comment ça se passe ? Est-ce que c'est Delphine ?
Moi, je vais vous dire, la transmission d'entreprise, il y a plusieurs choses à transmettre. Il y a bien sûr à transmettre l'entreprise en tant qu'ensemble d'actifs. Et ça, c'est 20 ans ou 30 ans de travail à peu près. Je ne peux pas vous dire qu'on l'a fini, mais on l'a commencé largement. Parce que surtout à la valeur d'une entreprise comme la nôtre, ça se travaille de très loin et il faut utiliser toute l'intelligence opérationnelle et stratégique avec des conseils pour le faire et pour le faire de la façon la plus efficace. Après ça, il y a la transmission du pouvoir. Et je dirais plus de l'autorité. Mais effectivement, le pouvoir, ça se donne, mais aussi ça se prend. C'est-à-dire qu'on peut donner un pouvoir qui n'est pas pris. Moi, je suis contente parce que je donne un pouvoir qui est pris. Et donc, ça me paraît extrêmement important. Et ça, ça se prépare aussi, bien sûr. C'est-à-dire que c'est une espèce de transmission dans le temps qui est une réinvention. Parce que le pouvoir tel que l'exerce Delphine n'est pas la façon dont je l'ai moi-même exercé, qui n'est pas la même façon dont l'exerçait mon père. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un exercice du pouvoir. Vous savez que l'exercice, c'est l'exercice physique. Et il y avait d'ailleurs un très beau film qui s'appelait, je crois, L'exercice du pouvoir. Eh bien, le pouvoir, quand on l'a reçu, il faut l'exercer. Sinon, il se perd, il se dilue. Et moi, ce qui m'importe, si vous voulez, ayant reçu un pouvoir, ayant reçu une autorité, je me suis toujours dit que c'était un peu comme le manteau du toréador, vous savez, qui est brodé, qui a de multiples facettes qui brillent. Eh bien, ce manteau qu'on reçoit un beau jour, il faut le rendre en l'ayant amélioré, en l'ayant rebrodé d'autres choses. Et donc, c'est ça mon ambition, c'est de remettre ce pouvoir qui ne m'appartient pas. On n'est jamais propriétaire des pouvoirs qu'on reçoit. On en est les dépositaires temporaires. Eh bien, c'est important que je puisse le rendre progressivement et que ce pouvoir soit endossé par Delphine.
Et Delphine, comment vous le voyez, vous, ce manteau de toréador ? C'est une belle image.
Oui, effectivement, c'est une belle image. Moi, je le vois comme étant effectivement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le fait d'être en transmission et dans le fait de prendre un pouvoir, de se positionner en tant que dirigeant avec ses actifs et ses fragilités, mais dont il faut en avoir connaissance pour pouvoir les pratiquer et pouvoir avoir sa propre écriture.
D'être vraiment vous-même.
C'est ça. D'avoir cet alignement de soi par rapport à son rôle de dirigeant. Là aussi, c'est un exercice qui est quotidien, parce que ça ne s'apprend pas en un seul jour. Donc la transmission, ce n'est pas une date, ce n'est pas un moment particulier, c'est un élément qui se constitue dans le temps et sur lequel c'est une construction de tous les jours, je pense.
Quand on lit des articles sur des dirigeantes d'entreprise, on remarque qu'il y a souvent la question qui est posée des enfants. Et souvent, on ne la pose pas aux hommes. C'est ça le problème. C'est pas le problème qu'on nous pose à nous les femmes, parce qu'effectivement, c'est intéressant de savoir comment on s'organise, que justement, parfois être entrepreneur, bah, c'est plus facile pour gérer son emploi du temps, etc. Donc, c'est intéressant de la poser, de savoir comment on fait. Le problème, c'est qu'on ne la pose pas aux hommes. Comment vous, vous avez fait, Elisabeth, et comment vous vous faites ? Delphine.
Vous pensez à l'organisation familiale, c'est ça, les enfants, la famille, etc. Bon, je dirais d'abord que ce n'est pas incompatible parce que ça date de l'Antiquité. Il y a des femmes qui ont des activités professionnelles, donc ce n'est pas nouveau. C'est le 19e siècle qui a quelque part mis les femmes dans un rôle domestique un peu restreint, mais c'est tout. Je dirais les commerçantes ont toujours été, les boulangères sont des femmes qui ont assumé, etc. Les agricultrices, surtout au moment où les hommes partaient à la guerre. Enfin, je veux dire, ce n'est pas nouveau que les femmes assument des rôles dans l'économie. Ça date de l'Antiquité. Deuxièmement, c'est un espèce d'équilibre familial qui est fluctuant à reconstruire tout le temps, mais qui s'est fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir des enfants et un mari qui ne m'ont jamais rendu la tâche impossible. S'ils l'avaient rendue impossible, eh bien, probablement, j'aurais préféré que la famille tienne le coup. Mais ils m'ont fait ce très beau cadeau de ne pas me rendre la tâche impossible et ils s'en sont bien sortis. Donc, moi, j'avoue que c'est quelque chose que je dis souvent. Je trouve que c'est un beau cadeau d'amour d'une famille à une mère de la laisser prendre la liberté de sa tâche.
Delphine ?
Alors, moi, j'ai tendance à arriver les choses de manière plus facile dans l'idée qu'une femme qui travaille à aujourd'hui, en termes de génération, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratiqué, beaucoup plus accepté, beaucoup plus organisé. Alors, de dire que c'est simple, non, parce que je dirais que c'est quelque chose qu'il faut rééquilibrer tous les jours pour être sûr de pouvoir donner le temps nécessaire à chacun et d'avoir cet équilibre maintenu.
Mais c'est pas simple, comme dans tous les domaines, voilà. Dans tous les métiers, en fait. Il n'y a pas de différence.
Il n'y a pas de différence. Je dirais que cet équilibre, il est forcément sous attention, mais il n'a rien d'exceptionnel.
On va terminer ce podcast par un portrait chinois. Le conseil que vous donneriez à vous-même à 20 ans. Si vous étiez en face de vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que vous vous diriez, Elisabeth ?
D'aller au bout de ce qu'on a envie de faire, parce que c'est cette envie-là qui est structurante de la vie professionnelle et donc de la vie, tout court. Voilà.
Delphine ?
Moi, je dirais d'indiquer que tous les chemins mènent à Rome. Il n'y a pas de chemin...
Mènent à Tubane, en l'occurrence.
Voilà. Il n'y a pas de chemin prédéfini et surtout de chemin parfait. Je dirais que c'est son chemin avec ses choix. Voilà ce que je donnerais comme conseil.
Très beau. Une femme qui vous inspire et puis un homme qui vous inspire.
Moi, j'ai une très, très grande considération, reconnaissance et admiration pour Louis Gallois, qui était un grand homme de l'entreprise, un grand homme de l'honnêteté, de la loyauté, de la transparence. Pour moi, c'est un modèle
patron de
différentes entreprises successives, parce qu'il en a pris, mais en particulier SNCF, qui n'est pas une entreprise facile à gérer. Et pour moi, voilà, j'ai une très, très grande considération pour Louis Gallois, qui pour moi est un homme complet, une personnalité complète.
Et une femme ?
Je vous ai dit Françoise Giroud et ça reste Françoise Giroud. Il y a beaucoup d'autres
ça
femmes,
marche.
Mais Françoise Giroud, ça, voilà.
Ça marche très bien, Delphine.
Alors moi, j'ai beaucoup d'admiration, même si je la côtoie pas, envers Mercedes Herrera.
À la tête de BETC.
Ouais, voilà, c'est une femme que j'admire beaucoup parce qu'elle a cette affirmation de la créativité qui n'est pas forcément un des actifs, en tout cas chez moi. Et c'est pas tant le sujet du combat pour les femmes qu'elle mène, mais c'est son affirmation et sa conviction de créativité qui m'émeut et sur lequel je suis très admirative.
Voilà. Elle est comme elle est.
Exactement.
Un homme ?
J'apprécie beaucoup le chantier d'Éric Bélion, qui est donc un navigateur que j'ai eu par contre l'occasion de côtoyer, puisqu'on l'a accompagné lui dans le Vendée Globe. Et je suis très en adéquation avec l'idée qu'on est beaucoup plus riche en temps différent. C'est un combat qu'il mène depuis toujours. C'est le fil conducteur de sa vie. Je suis totalement en cohérence avec cette valeur-là.
Ce qui vous ressource quand tout ne va pas très bien,
Bah, moi, je vais vous dire, j'aime la montagne, j'aime ma chaîne des Aravis, voilà, donc c'est un lieu que j'aime bien et qui est un lieu de ressourcement, effectivement.
Vous, Delphine ?
Alors moi, c'est l'eau. C'est un élément qui est très essentiel pour moi et qui me permet d'avoir une forme de sérénité, mais dont il faut être vigilant. L'eau, c'est aussi bien la tempête que, je dirais, le lac plat. J'aime ce côté très différent, très multifacette de l'eau. Quand on était plus jeune, on avait l'occasion de naviguer en famille et il arrivait très souvent que je sois de très mauvaise humeur pendant l'ensemble du voyage, à l'exception du moment où je prenais la barre. Voilà, j'ai tendance à me sentir particulièrement à l'aise quand c'est moi qui prends la barre du bateau, voilà.
Un livre que vous auriez envie de partager ?
Je vais en donner deux, mais qui sont des livres d'ailleurs qui ne sont pas d'aujourd'hui, mais qui m'ont moi beaucoup marqué. D'une part, La société de confiance d'Alain Perfit. Alain Perfit avait vu de façon extrêmement puissante, intellectuelle, mais en plus très illustrée, à quel point la confiance était génératrice de flux positifs dans l'économie. Et il l'a vu en l'analysant, je dirais, dans la société du Moyen-Âge, ensuite de la Renaissance, etc. Et dans l'actualité aussi. Et puis il y en a un autre que j'aime beaucoup, qui est Etchegoyen, qui était un normalien qui a disparu aujourd'hui et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Les entreprises ont-elles une âme. Mais ça, moi, ça m'a beaucoup intéressé.
Merci Elisabeth.
Alors moi, je fais référence à un livre qui s'appelle Les mains du miracle, de Joseph Kessel, qui retrace l'histoire d'un soignant, enfin d'un médecin qui soignait Himmler et qui, à travers le fait d'aider Himmler, a réussi à sauver de nombreuses vies en fait pendant la guerre, en le convainquant d'éviter de déporter un certain nombre de personnes. Le fait de ce sens du soin, ça rappelle bien sûr Tuan, et j'ai trouvé beaucoup de sens dans ce livre-là.
Un film ?
Alors moi, je vais vous donner plutôt une pièce de théâtre qui a été d'ailleurs, je dirais, reprise à de multiples fois. C'est Antigone.
Aussi.
Antigone, j'aime l'Antigone antique. J'aime l'Antigone d'Anouilh, la récente. Et j'aime cette femme rebelle qui se livre à un devoir permanent. Et puis j'aime la réflexion sur le pouvoir qui est celui du roi Créon. Voilà, Antigone pour moi. Et puis je suis peut-être un peu une petite Antigone.
Une petite rebelle, c'est ça ? Une grande rebelle ?
Oui, probable, oui.
Delphine ?
Alors moi, c'est pas forcément un film. Je voulais partager donc un morceau de Debussy qui est le Clair de lune, qui est effectivement très connu, mais qui m'interpelle toujours dans sa modernité permanente. Plus je l'écoute, plus j'ai ce sentiment de modernité, quand bien même c'est un morceau qui n'est pas tout récent. Et ça fait appel là aussi, je dirais, à la pérennité du groupe et de se dire que un groupe qui a cet âge-là peut rester moderne et doit rester moderne.
Est-ce que vous souhaitez remercier quelqu'un en cette fin d'émission ?
Oui, moi d'abord, je vais vous dire, je remercie tous nos collaborateurs dans le temps, c'est-à-dire ces milliers de collaborateurs qui ont accepté d'entrer dans ce destin d'une société qui a pignon sur rue, qui a une vocation de visibilité, de transformation et d'actualité à tout moment. Donc moi, je remercie l'ensemble de nos collaborateurs, tous ceux qui ont participé à ce navire qu'on a aujourd'hui.
Alors oui, bien sûr, les collaborateurs, c'est très important de pouvoir les valoriser. Après, je remercie mes enfants. Je remercie mes enfants de me donner cette liberté-là et de grandir. Et je les admire beaucoup dans la façon de gérer leur propre vie. Je les remercie pour ça.
Merci Elisabeth Ducoté, merci Delphine Anton, merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci à Thomas Plé et Mathieu Thévenon qui ont réalisé cet épisode. Merci également à Zaya Cassel et pour l'organisation de ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires aussi que j'ai hâte de lire. Et rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec Les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.